Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
L'économie n'attend pas. Elle bouge, elle évolue, elle vous surprend. Rejoignez votre hôte, Othman Lamziri, alors qu'il explore et expose toutes les facettes du monde des finances. Bienvenue dans l'économie en mouvement.
Donc, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'économie en mouvement, votre rendez-vous hebdomadaire sur CEVA 88.3. Donc ici, vous êtes à l'écoute d'Othman Lamziri, économiste curieux, engagé, pour vous aider à mieux comprendre les réalités économiques d'ici et d'ailleurs. Quand on pense à une guerre, on imagine souvent les pays directement impliqués. On imagine les soldats, les missiles, les négociations diplomatiques de haut niveau. Mais derrière ces images de conflits armés, il y a vraiment une réalité économique bien plus large, de la diplomatie bien plus silencieuse, celle qui touche des pays qui ne sont pourtant pas directement en guerre. On les appelle les économies tierces. Et celle d'elles qu'on va parler aujourd'hui en fait. Prenons un exemple que tout le monde il a écouté la guerre qui était en Ukraine, un conflit entre la Russie et un pays européen. Et pourtant, cette guerre a fait grimper les prix du pain, par exemple au Maroc, celui du huile au Sénégal ou encore celui du gaz au Pakistan même. Comment est-ce cela possible? Parce que dans un monde interconnecté, les effets d'un conflit traversent les continents. C'est un peu comme jeter une pierre dans l'eau. Les ondes se propagent bien au-delà du point d'impact. C'est l'effet écho. Et cela donne en fait plusieurs impacts. Je peux citer en premier lieu l'alimentation, car avant la guerre, l'Ukraine et la Russie assuraient ensemble près de 30% des exportations mondiales de blé. Quand les ports ukrainiens ont été bloqués, les pays importateurs, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, se sont retrouvés à court de stock ou à devoir payer beaucoup plus cher. Comme résultat, il y a quoi? Il y a une inflation alimentaire. Il y a des tensions sociales, parfois même des manifestations. Et ce n'est pas un cas isolé, car chaque guerre qui touche un grand producteur ou un grand exportateur finit par un déséquilibre sur le marché mondial. Il y a aussi un deuxième choc, c'est au niveau de l'énergie. Même chose avec l'alimentation, les sanctions occidentales contre la Russie ont réduit l'accès au pétrole et au gaz russe. Et comme la Russie est l'un des trois plus gros exportateurs au monde, les prix ont flambé. Les pays développés ont puisé dans leurs réserves ou injecté des subventions. Mais les pays en développement, eux, n'ont souvent ni l'un ni l'autre. Et comme résultat, on a quoi encore? Des factures d'électricité qui explosent, des déficits commerciaux qui s'aggravent et parfois des pannes de courant à répétition, comme on a pu le voir au Sri Lanka ou bien au Bangladesh. Je peux citer aussi un autre effet qui sont les fuites des capitaux et les migrations. Alors, en période d'instabilité, les investisseurs cherchent des endroits plus sûrs et ils retirent leur argent des marchés émergents comme pour le placer dans les valeurs refuges comme dollar américain ou l'or. C'est quelque chose qui est plus ou moins sûr et certain, économiquement parlant, et ça peut paraître anodin. Mais c'est une vraie saignée pour les pays concernés, car moins d'investissement, une monnaie qui se déprécie, et des taux d'intérêt qui grimpent. Cela freine la croissance, annule les efforts de développement et accentue les inégalités. Et cela, c'est le Soudan, par exemple. On a aussi l'Iran, la Libye. On a aussi, y en a plusieurs pays qui ont été impactés par les fuites des capitaux. Cinquième dimension, ce qu'on appelle aussi les pressions géopolitiques, car dans un monde polarisé, les pays neutres sont souvent poussés à choisir un camp. Par exemple, lors des tensions entre la Chine et les États-Unis, plusieurs pays africains du nord d'Afrique ou asiatiques ont été menacés de sanctions s'ils commerçaient avec l'un ou l'autre. Cela a créé un climat d'incertitude ou un risque de sanctions secondaires. Comme résultat aussi, on a quoi? Les pays en développement, qui sont principalement asiatiques, pays d'Afrique du Nord, doivent marcher sur des œufs diplomatiques, de faire des conventions diplomatiques, faire des accords diplomatiques, alors qu'ils veulent simplement défendre leur propre intérêt économique. Mais je vois quand même que ce tableau n'est pas uniquement noir, car certaines économies parviennent à tirer leur épingle de jeu. Le Qatar, par exemple, a profité de la crise énergétique pour augmenter ses exportations de gaz liquéfié. L'Algérie a vu l'Europe se tourner vers elle pour diversifier ses approvisionnements. Et d'autres pays comme l'Inde, la Turquie sont su négocier des propositions avantageuses dans ce nouvel ordre économique fracturé. Et puis, il y a ceux qui prennent conscience de leur vulnérabilité et décident d'agir. On voit apparaître des politiques de diversification des importations, de relocalisation de la production de coopération régionale renforcée. L'Afrique, par exemple, avance dans le ZLECAF, la zone libre-échange continentale africaine. Cela montre une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs et de construire une résilience économique locale. Si je retourne un peu ma boussole envers l'événement actuel qui est une guerre régionale et qui a vraiment des répercussions mondiales entre l'Israël et l'Iran. Depuis l'attaque de Hamas, le 7 octobre 2023, les représailles israéliens à Gaza, la tension n'a cessé de monter. En avril 2024, un échange direct de frappes entre Israël et l'Iran marque une nouvelle étape, un conflit qui dépasse les groupes armés intermédiaires pour impliquer des États-nations puissants. Et économiquement, les conséquences ne semblent pas étendre, car il y aura un prix de pétrole qui va être dans un schéma exponentiel. L'Iran, membre clé de l'OPEP, est un acteur majeur du marché pétrolier. Toute menace sur ses infrastructures ou sur le détroit de l'Hormuz, par lequel transite presque 20% du pétrole mondial. Comme résultat, les pays importateurs d'énergie, notamment bien sûr l'Afrique, l'Asie du Sud, voient leurs factures exploser. Cela entraîne de l'inflation, une baisse de la consommation intérieure, des tensions sur la balance commerciale. Et cela va directement impacter les routes commerciales qui seront aussi menacées. Car les attaques de milices soutenues par Iran, comme les Houthis ou bien les Yéménis, sur les navires en mer Rouge, d'or est déjà poussé plusieurs compagnies maritimes à éviter cette zone. Et cela rallonge les trajets, augmente les coûts logistiques et ralentit les échanges. Pour les pays d'Afrique de l'Est ou d'Asie, qui dépendent du commerce maritime, c'est un vrai choc pour eux aussi. La montée des primes de risque aussi, car les tensions militaires vont exploser. Le coût de crédit, les coûts de prêt pour les pays proches du conflit ou perçus comme instables. Les investissements seront retardés, le tourisme s'effondre dans toutes ces régions, surtout en Iran en fait, et les marchés financiers deviennent nerveux. Même un pays comme la Turquie, pourtant habitué aux tensions régionales, voit sa devise souffrir de la volatilité accrue. Il y a un impact en fait global qui va en avoir un effet domino. Car ces conflits entraînent des effets et, comme je viens de mentionner, une inflation importée, des fuites de capitaux, endettement aggravé pour les pays qui doivent subventionner l'énergie ou les denrées pour calmer leur population, et bien sûr une instabilité politique fragile, surtout bien sûr Liban, la Turquie, l'Égypte, Pakistan. On n'a pas encore parlé des flux migratoires qui pourraient s'intensifier sur la guerre Iran-Israël, qui va devenir comme étant régionale avec des conséquences humanitaires et économiques majeures pour les pays d'accueil. Et maintenant, vers quelle prévision? Je vois en fait 3-4 scénarios. Le premier, c'est un scénario que je peux dire, le conflit reste contenu. Les tensions restent régionales. Les marchés s'adaptent et les pays exportateurs de pétrole du Golfe augmentent leur production pour compenser ce déficit. Et les effets économiques sont temporaires, mais marqués. Le deuxième scénario, c'est que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Israël riposte avec le soutien des États-Unis, qui vient d'être arrivé là maintenant, en fait, après cette réunion des États-Unis. Les prix du baril passent les $120 et les pays en développement entrent dans une crise énergétique et budgétaire. Le risque de surendettement augmente, s'explose, et les tensions sociales explosent aussi dans plusieurs capitales du Sud. Et le pire scénario, je pense, c'est qu'il y aura quand même une réorganisation géopolitique. Car face à ces tensions, plusieurs pays du Sud global vont chercher à se faire diversifier leur alliance. Rapprochement dans la Chine avec le BRICS ou renforcement des coopérations Sud-Sud. Et cela aussi fragilise encore un peu plus l'ordre économique occidental. Ben, les guerres géopolitiques ne s'arrêtent pas aux frontières. Mais elle provoque des effets économiques diffus, des effets sur le capital humain, puissants, parfois dévastateurs pour les économies tierces. Mais elle révèle aussi les failles d'un système trop dépendant, trop asymétrique. Et peut-être qu'au bout du compte, elle offre une occasion, celle de repenser les alliances, de renforcer la souveraineté économique et de bâtir un modèle de développement plus autonome et solidaire. Donc, sur ce, on vous laisse sur une courte pause sur les ondes de CFAQ 88.3.